bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième numéro du débat politique de ce mois d'octobre 2023. Souvenez-vous de cette débandade lundi due à une fausse alerte relative à la présence d'hommes armés à l'entrée de Bangui. Selon nos informations, il y a eu des blessés et des morts d'hommes. Ce n'est pas pour la première fois qu'une fausse alerte, dont on ignore souvent l'origine, fait des dégâts matériels et humains dans la capitale centrafricaine. Pourquoi le choix de ce sujet dans le débat politique de ce premier média centrafricain? Eh bien, la rumeur constitue un danger permanent pour la population et pour le gouvernement qui depuis toujours peine à contenir ce genre de situation. Comment la population doit gérer la rumeur? Peut-on dire que la réaction de la population face aux fausses alertes est un manque de confiance vis-à-vis du gouvernement et de l'armée? Et pour en parler, je reçois M. Maxime Balalou, ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et cadre du parti au pouvoir Mouvement de Caire Unie, MCU. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Paul Cresson Beninga, bonjour.
Bonjour Armando, bonjour aux auditeurs de Radio Ndekeluka.
Docteur en sciences politiques, promoteur de l'Institut Centrafricain des sciences sociales et de gestion, porte-parole du groupe de travail de la société civile GTSC. Armando Nguendi, c'est moi une fois de plus. Bonjour à toutes et à tous. Et si vous venez de nous rejoindre, vous ne vous êtes pas du tout trompé. C'est l'émission Patara, le débat politique du premier média centrafricain Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons le bal avec vous, Monsieur Balalou. Avant tout, l'actualité oblige, le Conseil spécial du président de la République, Monsieur Fidel Guantika, a donc demandé au Parlement d'envisager le processus pour lever l'immunité des trois députés de l'opposition. Il s'agit de Martin Ziguele, président du MLPC, Alice Georges Deleguele de l'URCA et Dominique Yandoka du parti ITA. Motif, selon lui, participation à la rencontre de l'opposition à Paris en France et leur déclaration relative à la non-reconnaissance de la nouvelle constitution de la 7e République. Adhérez-vous à la déclaration de votre collègue, M. Guandika, M. Balalou?
Je vous remercie. La question n'est pas de me dire d'adhérer. C'est une mauvaise question. Oui, je vais vous le répondre tout de suite. M. Guandika a donné une position qui est une position qui peut être justifiée. Je le dis pourquoi? Parce que moi-même, je suis surpris, personnellement, surpris par la prise de position de nos compatriotes, en plus élus de la nation, qui pour moi étaient des démocrates. Mais malheureusement, ils ne sont pas des démocrates. Comment voulez-vous remettre en cause la légitimité populaire quand un peuple qui est au-dessus de tout décide de choisir une voie et encore une constitution validée par le peuple? Vous vous opposez au peuple sur la base desquelles vous dites que vous le représentez? Il y a un problème à ce niveau-là. Ce comportement doit nous amener à réfléchir. Si on est démocrate, on se plie à la volonté du peuple. Ce n'est pas le cas de nos compatriotes qui sont des élus du peuple. Et je pense que la réaction de M. Guadika témoigne effectivement de la position qui est contraire aux principes démocratiques. Parce que on ne peut pas, et je le dis encore, je le répète, aller contre la volonté du peuple, chers compatriotes. Et je demande à mes compatriotes que vous avez cités de respecter la volonté du peuple. Quand on dit qu'on ne reconnaît pas, ça veut dire qu'on doit se départir de ses attributs.
C'est et donc, est-ce qu'on peut déjà dire que la position de M. Fidel Guandika, qui est le conseil spécial du président de la République, est donc la position du président et du gouvernement?
Non. Écoutez, M. Guandika n'a pas dit, il prend la parole au nom du président, c'est vous qui le dites. C'est un centrafricain, même s'il est conseiller du président, c'est un centrafricain, il a le droit de prendre position par rapport à sa conviction politique. Et je tiens à vous préciser, je le répète tout à l'heure, on va y revenir. Est-ce qu'on peut aller, la légitimité vient du peuple, n'est-ce pas, qui l'exprime, et ce peuple-là l'exprime par voie de référendum. On doit prendre acte si on est démocrate. On ne peut pas aller, je le dis, je le répète, on ne peut pas aller contre ce peuple. Et on va mesurer la légitimité de ceux qui parlent là, sur les 95% de ce peuple-là qui a dit oui. Vous allez dénier à ce peuple-là cette légitimité?
Mais maintenant, comme on est dans une sphère...
C'est la bonne question qu'il faut qu'on se pose.
Comme on est dans une sphère politique et c'est un pays démocratique, quelle est la notion même de la démocratie à ce niveau? Si les gens disent, mais nous ne sommes pas du tout d'accord, nous critiquons, nous prenons le contre-pied de ce que le gouvernement a fait, est-ce que déjà on peut les qualifier, se mettre à l'écart de la République?
Mais puisqu'ils ne reconnaissent pas cette constitution, ils renoncent à leur fonction. ils renoncent. Puis cette constitution va les gérer. Et oui,
vous le savez,
il faut qu'ils aient le courage de dire
Il y a des dispositions transitoires dans la nouvelle constitution. Les anciennes institutions vont rester en place. Donc, ils sont issus de la 6e législature.
Je partage. C'est leur point de vue. Ils peuvent penser comme ils veulent. Mais moi, ce qui me gêne, chers compatriotes, c'est de remettre en cause la volonté du peuple. C'est tout ce qui me gêne.
On va donner la parole à M. Pokressan Binenga et revenir vers vous. Monsieur, vous venez d'écouter, selon l'opposition, cette nouvelle demande du conseiller spécial du chef de l'État renvoie à la volonté du gouvernement de nuire aux leaders de l'opposition. Quelle est donc votre lecture de cette situation qui risque d'accentuer la crise politique dans ce pays?
Merci Armando. En suivant M. Balalou, je souriais parce que je me suis dit, on est dans un pays où... Lorsqu'une haute autorité, en l'occurrence un haut fonctionnaire de l'État, fait un discours ou prend position sur une question donnée et que cette position va à l'encontre de ce que pense le gouvernement, on brandit le principe du droit de réserve. En revanche, lorsque la même autorité ou le même haut fonctionnaire prend la parole et va dans le sens du gouvernement, on dit qu'il parle en son nom et donc le droit de réserve saute. C'est manifestement ce que M. Balalou est en train de nous dire en ce qui concerne la dernière sortie de M. Fidel Ngwandika. Il nous rappelle ici que M. Fidel Ngwandika est un citoyen centrafricain. Il a le droit de prendre la parole et de dire ce qu'il pense. Tout en oubliant sciemment que M. Ngwandika est un haut fonctionnaire. C'est un ministre conseiller. Plusieurs fois ministre et aujourd'hui c'est un ministre conseiller en fonction. Et donc, on ne peut pas séparer le citoyen de ce ministre conseiller. Ce que le ministre Ngwandika a dit engage la présidence, parce que c'est un conseiller à la présidence. Mais je vais aller plus loin. Je ne suis pas surpris. D'ailleurs, sa prise de position ici, il va dire que j'agis en tant que citoyen. Je le dis en tant que citoyen. Non, il le dit en tant que ministre en fonction. Et quand vous scrutez ce qu'il dit, il bénit le projet. Il bénit le projet de la destitution ou de la levée d'immunité de ces trois personnalité, en l'occurrence Martin Zegele, Anissé Jordolo-Guélé et Dominique Yandoka. Ce n'est pas la première fois. Nous avons vu, il y avait un précédent, c'est le cas Mekassoua. Aujourd'hui, nous avons ces compatriotes. Je vais vous dire une chose. Ce qui caractérise le pouvoir en place, c'est que lorsqu'ils annoncent ces choses-là, au travers de ces personnalités qui estiment avoir pris la parole en leur nom, c'est qu'ils vont le faire. Mais la question qui se pose, c'est que cette action que vous voulez mener, est-ce que ça vaut la peine de le faire? Vous avez dit quelque chose ici, monsieur le ministre. Vous avez parlé du point de vue. Qu'est-ce qu'un point de vue? Ce n'est qu'une vue à partir d'un point. Vous avez le vôtre. Vous émettez une vue à partir de votre point, de là où vous êtes. Et vous émettez une vue. Ceux qui sont de l'autre côté, à partir du point où ils se trouvent, ils émettent également une vue. Et c'est ça un point de vue. On ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Et donc, ayez au moins la tolérance. Je ne vais pas dire la clémence parce que le mot n'est pas approprié, mais ayez au moins la tolérance de supporter les contradictions. C'est extrêmement important. Maintenant, quand vous dites que ces compatriotes ont pris position à Paris et ces prises de position justifient ce projet de levée d'immunité, je l'entends, je veux bien comprendre, mais je ne partage pas ce point de vue. Qu'est-ce que la loi prévoit, monsieur le ministre Balalou, au sujet de la levée d'immunité d'un élu de la nation? Vous avez parlé de la trahison. Voyez-vous, dans l'ancienne constitution, celle du 30 mars 2016, en parlant de la haute trahison, le législateur centrafricain a énuméré les éléments qui peuvent déboucher sur une autre trahison. En revanche, dans la nouvelle constitution, vous avez vidé l'article qui a défini ce qu'on peut qualifier de haute trahison. Aujourd'hui, c'est à tête chercheuse. Parce que vous êtes au pouvoir, vous estimez que la prise d'opposition de certains compatriotes n'arrange pas vos affaires, il faut procéder à leur destitution. Mais quel État voulons-nous? Quelle société voulons-nous construire finalement? Pourquoi est-ce que, lorsque nous ne sommes pas d'avis avec les autres, parce qu'on est au pouvoir, on pense qu'il faut aller jusqu'au bout? Mais je vous dis, et prenez date, le pouvoir va arriver, va arriver à ce projet. Ce projet va arriver à son terme. Parce que quand ils annoncent ça, surtout quand ça vient de Ngwandika, ça veut dire que ça a été déjà décidé.
On va donner la parole à vous. Vous voulez répondre, mais déjà, lorsque l'opposition voit derrière cette prise de position l'idée d'une dictature en essence,
vous savez, mon jeune cadet, ce qu'il vient de dire n'engage que lui. Est-ce que le gouvernement a déposé sur la table de l'Assemblée nationale une demande de destitution? Est-ce que le gouvernement a écrit en sollicitant l'Assemblée nationale de procéder, n'est-ce pas, à la destitution?
Il dit ça va. Ça non, veut dire que c'est dans
oui,
un futur,
ce n'est qu'une interprétation.
Dans un futur proche.
Ce n'est qu'une interprétation de mon cher cadet. Ce que je voulais, je réitère et je reviens là-dessus. Nous ne sommes pas contre la contradiction. Vous savez, c'est à partir du choc des idées que j'ai eu la lumière. On a besoin de la contradiction pour construire notre pays. Faites très attention. Il y a une tendance dans le débat démocratique dans notre pays où nous sommes dans la défiance systématique. C'est une tendance et on ne fait pas la démocratie dans la défiance. On ne pense pas que ce que nous regardons en tant qu'opposition, parce que vous prenez la parole ici comme un porte-parole, et je me demande...
De la société civile. Hein.
Oui, quelle société civile, on sait, c'est des sociétés civiles alignées, on connaît, parce qu'on connaît les tendances. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis un démocrate, un fervent démocrate. J'aime tous mes compatriotes, y compris ceux de l'opposition dont vous parlez. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Dans ce pays, si on veut construire véritablement une démocratie, il faut qu'on ait le courage de s'accepter. On ait le courage de s'asseoir, de discuter pour notre pays. Ça ne sert à rien, ces diatribes-là ne nous amènent nulle part. Je reviens maintenant sur...
La question de la dictature en essence.
Vous savez, nous ne sommes pas une dictature, comme vous le prétendez.
Je dis, c'est l'opposition. Je paraphrase ce que l'opposition
oui,
dit.
Mais oui, ça n'engage que l'opposition. C'est normal, l'opposition est de son droit de dire ce qu'elle pense. Nous sommes dans un processus de construction d'une démocratie dans notre pays qui prendra du temps parce que nous avons face de nous des gens qui n'acceptent pas leur propre faiblesse. Ils sont tombés dans leur propre turpitude parce qu'ils n'ont pas compris véritablement le sens de la démocratie. Lorsque le peuple, je reviens là-dessus, que M. Beringa doit me le dire, lorsque le peuple décide, vous vous soumettez à la voix du peuple. C'est ça la démocratie, non? N'est-ce pas? Ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas un débat pour moi avec vous aujourd'hui. Parce que cette constitution, elle est appliquée. Elle s'applique à tout le monde. Même ceux qui disent qu'ils ne reconnaissent pas. Mais ceux-là seront soumis à cette constitution. Donc le débat n'est plus là. Le véritable débat, et je rassure mon cher Kadhi Beninga que j'aime bien, mais il faut faire attention. Construisons d'une manière sereine. Je dis sereine. Cherchons cette voie d'un dialogue permanent où on va développer l'amour, la fraternité, la solidarité de notre pays. C'est ce qui manque véritablement quand j'écoute certains leaders de l'opposition, quand j'écoute ce qui sort de leur bouche. Je me demande si on veut construire cette véritable démocratie. Et je crois, je vous le dis encore pour boucler ce préliminaire, c'est que cette question, de toutes les façons, reviendra à l'Assemblée nationale. Et que nous, un membre du gouvernement tel que M. Beninga a voulu le faire tout à l'heure, je donne mon point de vue ici, c'est vrai, au nom du gouvernement, parce que secrétaire général du gouvernement, je suis citoyen, j'ai le droit de parler, je ne dénie pas à l'opposition le droit de parler, non. Mais ce que je dis, ce qui me surprend, puisque nous sommes des démocrates, s'il vous plaît, acceptons, c'est ça, c'est dur, mais c'est ça la réalité.
Bon, déjà, on reste dans le fait, parce que si l'opposition prend seulement la parole, prend position dans son rôle de l'opposition, n'a pas encore organisé des manifestations, etc., pour dire non, mais est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans leur rôle, ces opposants-là, de dire, comme vous l'avez dit, dans une démocratie, c'est qu'ils pensent?
L'opposition a le droit de refuser de participer à un processus démocratique, c'est son problème. Parce que c'est une catégorie de l'opposition. Attention, c'est une catégorie de l'opposition. C'est leur droit de dire qu'ils ne peuvent pas participer à des élections. C'est leur droit. C'est leur droit absolu. Mais dire que nous ne reconnaissons pas la constitution qui va les régir, de toute façon qui les régit, qu'ils le veuillent ou pas, cette constitution va les régir. Donc ça ne sert à rien. Et je crois que le débat est ailleurs. S'il faut voir ce qui se passe, le débat ailleurs. Quand on scrute bien, on sait tout ce qui est derrière. Mais ce qui est important pour moi, et je rappelle encore à la société civile, de jouer son rôle véritablement. Et je veux qu'il n'y ait pas d'appréhension telle qu'on le constate, et je le découvre même dans l'analyse de M. Beninga, en pensant que derrière ce qu'on a dit, c'est le gouvernement et ce qu'il va faire. On prend date, on verra.
Monsieur, rebondissez comme monsieur.
Monsieur Balaloué est dans le soupçon. Mais je ne vais pas rentrer dans son jeu. Collez-moi toutes les étiquettes qui vous semblent importantes. j'assume. Lorsque j'ai à vous dire, je vous dirai. Quand je vais à l'encontre de ce que vous pensez, c'est mon droit le plus absolu. Si ça vous amène à penser que je suis de l'opposition, je vais assumer. Lorsque je prends position et que cette position ne va pas à l'encontre du gouvernement, on raconte aussi que je suis du gouvernement. J'assume. Je suis un être libre. Je suis un homme libre. Je fais mes analyses et je l'assume. Si vous êtes dans le soupçon, c'est votre problème. Mais ce qui vous caractérise aussi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'est pas avec vous, c'est qu'il est contre vous. Non, monsieur Balalou, on ne fait pas la politique comme ça. Acceptez la contradiction. Une fois que j'ai dit ça, je reviens à l'objet de notre débat. Le débat n'est pas de dire ici que, monsieur Balalou, les gens doivent assumer la Constitution. Ce n'est que normal. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que je vous pose une question. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle d'Armando. Imaginons cette hypothèse où un citoyen centrafricain qui n'est pas un élu de la nation dit « je ne me reconnais pas dans cette constitution ». Comment est-ce que vous allez vous comporter? Parce que ce sont des élus de la nation, vous dites « il faut lever leur immunité ». Mais si ce ne sont pas des élus de la nation, ça devient extrêmement compliqué pour vous. Et le risque, si vous agissez mal, on parlera de la dictature. Donc, voyez-vous, supportez que je finisse. Allez-y. Voyez-vous, lorsque on est dans une démocratie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans l'intersubjectivité que la vérité jaillit. Alors, à partir de ce moment-là, ayez cette tolérance-là de supporter la contradiction. Ayez cette tolérance-là d'accepter que les gens vous disent le contraire de ce que vous pensez, le contraire de ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas que les meilleurs. Vous n'avez pas que les meilleures solutions. Vous n'avez pas que les meilleures idées. Les gens qui sont en face aussi sont des gens qui réfléchissent comme vous et c'est des gens qui peuvent constituer une force de proposition. Et c'est extrêmement important. Si nous voulons construire ce pays, si nous voulons aller vers la démocratie.
On boucle ce chapitre.
Non, permettez-moi, oui, s'il vous plaît.
Quelques secondes.
Je ne dis pas la chose différemment de vous. Ce que vous dites, je prends à mon compte. Il faut que nous ayons cette force-là de reconnaître que nous sommes des Centrafricains et que nous ne pensons pas tous de la même manière. Ne pensez pas que nous sommes imbus. C'est ce que vous pensez. Non.
Vous êtes toujours dans le soupçon.
Permettez-moi que je vous le dise parce que ça vient de vous. Ce que je voudrais vous répondre par rapport à ce que vous venez de dire, pour lequel cet argument peut être partagé par tout le monde. On est en train de construire une démocratie dans notre pays. Cette démocratie impose à nous la tolérance, l'humilité, la recherche des solutions aux problèmes du plus grand nombre. C'est le travail, que nous soyons opposition ou pas, parce que vous êtes pour moi en face de moi, vous êtes la société civile.
Quel que soit ce que vous pensez,
je dis société civile, on sait société civile. Oh là là, on sait, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là parce que vous le savez bien.
L'expression n'a pas de pudeur, allez-y.
Voilà. Donc, je voudrais vous dire et répéter encore une fois, autant que nous qui gouvernons en ce moment, autant que vous, société civile ou pas, opposition ou pas, on a un devoir de travailler ensemble pour construire ce pays, quelles que soient nos divergences.
Voilà, merci. Revenons à nos moutons, hein, monsieur Beniga. Comment expliquez-vous qu'une fausse alerte a causé la débandade et parfois a causé des morts d'hommes à Bangui, la capitale?
Bien, merci. Déjà, je voudrais dire ici que je ne partage pas le qualificatif de fausse alerte. Parce que aujourd'hui, il y a des concepts qui sont galvaudés dans notre pays et il y en a trois. Le concept de fausse information ou de fake news en anglais, le concept de rumeur et le concept de fausse alerte. Lorsqu'on parle d'une fausse alerte, c'est-à-dire qu'on est dans une fausse situation d'urgence qui cause la panique, la détresse. Lorsqu'on parle de rumeur, on est en face d'une information dont la source n'est pas contrôlée. On n'arrive pas à identifier la source. Alors, cette différence, elle est fondamentale de mon point de vue. Je fais cette différence pour dire que, pour m'interroger en disant que la situation telle qu'elle s'était produite la fois dernière, est-ce qu'il s'agissait d'une fausse alerte ou pas? Pour moi, il n'y en a pas. Parce que vous étiez à Djebel, j'y étais aussi ce jour-là, et on me l'a fait comprendre que vous y étiez.
Oui, j'ai été.
Voilà. Avec, je crois, Jean-Fernand Kouina, sauf si ma mémoire me trahit. J'ai sondé, je me suis informé de la situation, et il y a eu un événement qui a entraîné cette panique-là.
Mais ça, c'est donc, à la base, parce que l'information que la dame-là a annoncée a informé les militaires qui
j'en viens. Alors, si la dame a informé les militaires, c'est-à-dire qu'il y a un événement, on peut vérifier, passez-moi l'expression, la véracité de cet événement-là. Donc, pour moi, le concept de fausse alerte me gêne.
Fausse alerte, c'est au niveau de Bangui, en fait.
Sont, au niveau sont, de l'entrée de Bangui. Oui, mais on est dans le périmètre de Bangui, on est dans moins de 30 km de Bangui, entendons-nous. Et donc, quels sont pour moi les enseignements que nous pouvons tirer de cette situation-là? Moi, j'en ai 5. Le premier enseignement que je tire de cette situation, c'est que la population centrafricaine en général, et Banguissoise en particulier, n'a pas foi au dispositif sécuritaire en place. Si la population a foi au dispositif sécuritaire en France, elle ne se serait pas comportée de cette manière-là. Ça, c'est d'un. Deuxièmement.
Donc, c'est un manque de confiance.
Deuxièmement, lorsque on nous parle de ce qu'on aurait appréhendé, des hommes en armes dans le périmètre de Bangui, ça remet encore en cause le discours qui est souvent tenu par le ministre Balalou. Je veux parler du gouvernement. Je le bouscule pour parler du gouvernement en rassurant la population de ce que la situation sécuritaire est totalement sous contrôle. On ne peut pas rassurer la population de ce point de vue. Et tous les jours, on nous raconte qu'on a appréhendé les hommes armés de ce côté, on a appréhendé les hommes armés du côté nord, du côté sud et autres. Ça témoigne de ce que il existe encore des foyers d'insécurité sur le territoire centrafricain et dans les périmètres de la ville de Bangui. Troisième enseignement, c'est aussi l'état d'esprit de nos forces armées, des FACA. J'étais dans la localité du 4e arrondissement, j'ai aperçu des hommes en tenue qui cherchaient également à se mettre à l'abri, comme la population civile. Et je me suis interrogé, est-ce que ces FACA-là, leur état d'esprit? Je me suis interrogé sur leur état d'esprit. Et je suis de ceux qui pensent qu'une partie, je ne dis pas toutes les forces armées centrafricaines, mais l'état d'esprit d'une partie des forces armées centrafricaines ne rassure pas la population. Quatrième enseignement, c'est aussi le renseignement. Et j'en ai tellement parlé sur les zones que je ne veux pas m'étaler une fois de plus, mais je pense que le dispositif du renseignement, il faut le repenser. Et le dernier, je ne vous prends pas à témoin, vous êtes le modérateur, mais pour tous ceux qui se sont rendus à Djebel, pour constater du bout de doigt les réalités, quand vous voyez le dispositif sécuritaire qui est mis en place et qui est à saluer la réaction du gouvernement, il faut le dire, qui est mis en place, vous vous posez la question, mais en l'absence des forces étrangères, en l'occurrence, les contingents rwandais et les forces russes du groupe Wagner, que deviendrons-nous? Parce que j'ai vu un dispositif qui est tel que nos forces qui étaient là sur place étaient presque en retrait. Et moi, ça m'a fondamentalement gêné.
Monsieur Balalou, sur cette question, est-ce que la réaction de la population est compréhensive du moment où l'armée, par le passé, avait commis plusieurs défaites face aux rebelles? J'en veux pour preuve, en 2003, la rébellion dirigée par François Bozizé avait renversé le régime de Ange-Félix Patassé. 10 ans plus tard, nous avons l'avènement de la Séléka qui avait aussi déposé le général François Bozizé. Et récemment, en 2020, le président Touadéra s'est sauvé de justesse du coup d'état de la CPC. Tous ces faits ne donnent-ils pas raison à la population, M. Balalou?
Je pense que les questions d'ordre sécuritaire ne se traitent pas à la légère. Vous savez, ce pays a beaucoup souffert. Depuis 2013, avec l'entrée de la Séléka, tout ce que ce pays a connu, cette population meurtrie par des événements cruels, ont mis en péril la vie de nos concitoyens. Vous savez, nous avons encore des gens dans ce pays qui pensent que leur fonds de commerce, c'est la destruction, les crises à répétition. Et tout plaisir parfois, quand on parle de rumeurs, de fausses rumeurs, à des extrapolations, juste dans le but de créer la psychose au sein de la population. Je ne suis pas là pour étaler ici les efforts qui sont faits du point de vue sécuritaire, des arrestations, des malfrats. Je ne fais pas étalage de ça ici. Ce n'est pas de mon devoir en tant que membre du gouvernement. Mais je tiens à vous le dire. L'impression que vous nous donnez de nos forces de défense et sécurité qui, selon vous, ne sont pas prêtes à assumer leurs devoirs si jamais nos alliés, tels que vous le dites, ne sont pas là, il faut faire attention à ce que vous dites. Regardez en arrière. Regardez l'état de nos forces de défense et sécurité hier et aujourd'hui. Il faut rendre hommage à ceux-là qui ont perdu leur vie, qui ont donné leur sang pour vous protéger, pour me protéger, et ils continuent à perdre leur vie pour nous. Et ils le font la nuit, dans les conditions difficiles. Ils le font pour vous et pour moi, parce qu'ils veulent assurer la stabilité dans ce pays. Ces rumeurs sont extrapolées, distillées par les ennemis de la paix. On en a vu comment ils ont fait, en utilisant même les taximotos et autres. Tout ça dans un esprit de pouvoir créer les conditions de la déstabilisation. Mais c'est une peine perdue.
Mais déjà, au niveau de Djebel, est-ce qu'on peut revenir ici à la base,
s'il vous plaît,
à la base de ce fait-là?
Permettez-moi. Vous savez, quand une dame rencontre des gens armés, ok, qu'elle a le droit de pouvoir informer, ok, ça c'est un devoir citoyen. Ce jour-là, nos forces de défense sont sur le terrain. Ils ont réagi immédiatement. Je ne rentre pas dans les détails de sécurité, s'il vous plaît. Mais ce que je veux vous dire, puisque la question clé, comme vous le dites, et c'est bien, on doit le partager, ce sont ces folles rumeurs. Et vous avez parlé tout à l'heure de la confiance. Que la réaction de la population, c'est peut-être l'expression de manque de confiance vis-à-vis du gouvernement. Mais c'est faux. C'est faux ce que vous dites. Quelques heures après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures après ces rumeurs, le gouvernement a réagi du point de vue politique, n'est-ce pas? Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Si vous dites que il y a pas l'expression, c'est l'expression du manque de confiance. Le citoyen n'a pas repris ses activités. Le citoyen n'est pas allé au bureau. Les marchés sont pas ouverts. Quand vous parlez de manque de confiance, le véritable problème n'est pas là. Le véritable problème, c'est une stratégie de déstabilisation du pays.
Par qui?
Qui est orchestrée à plusieurs niveaux.
Par qui d'abord?
Plusieurs niveaux. Je n'ai pas besoin de citer, puisque vous le connaissez.
Puisqu'on est dans les forces négatives
qui occupent des poches, qui sont complètement désemparées, et qui occupent des poches. Vous avez derrière tout ça, hein, des mains invisibles qui travaillent, qui continuent à travailler pour déstabiliser. Mais je vous dis, et je le répète encore aujourd'hui, nos forces de défense de sécurité sont en alerte. Ils travaillent nuit et jour pour préserver la quiétude de nos populations. Nous ne pouvons, et j'exhorte mes concitoyens, ils le savent, restez tranquilles, vaquez vos occupations. Voilà ce que je vais vous dire. Quand vous dites que c'est vrai, M. Beninga l'a dit, ces rumeurs-là ne sont pas des rumeurs infondées. Je vous répète encore une fois, je ne rentre pas dans le détail des opérations que nous menons sur le terrain. Mais ce que je vais vous dire, c'est que ces rumeurs posent problème.
Monsieur Beninga,
pour nous, ces rumeurs posent problème pour la population parce qu'on est en train de créer de la psychose, hein, pour faire peur aux gens, mais nos forces de défense sont prêtes.
Monsieur Beninga, j'ai relaté tout à l'heure les événements de passé 2003, 2013, 2020, et tout cela, c'est ça qui peut donner cette idée-là à la population lorsqu'une alerte est donnée, la population a peur.
Oui, avant de répondre à votre question, je vais dire deux choses. Je voudrais clarifier une situation, je réagis sur les propos de M. Balalo et puis je répondrai à votre question. Ce que je voudrais clarifier, c'est de dire, M. Balalo, nous sommes dans un débat, il y a des expressions que moi je n'accepte pas. L'expression « faites attention », ça sonne comme une mise en garde. Je n'ai pas une mise en garde à recevoir de vous. Entendons-nous bien.
Je n'ai pas dit à vous.
Oui, si, vous m'aviez dit ça. Vous venez encore de le dire. Attention. Non, les expressions.
Attendez, s'il vous plaît.
C'est vous qui me coupez, c'est moi qui ai la parole. Oui. Vous avez vu que je vous écoute religieusement, mais lorsque je reprends la parole, vous brûlez d'envie de toujours rebondir. Donc, alors, c'est des expressions que je ne m'irais pas, effectivement, qu'on les prononce dans un débat. Les faites attention et autres, quand ça s'adresse à moi, je n'accepte pas. Ça, c'est clair. On est dans un débat, les relations aînés-cadets. Ça, je l'accepte volontiers quand on est au quartier, mais quand on est dans un débat, il faut qu'on tienne compte de cet aspect-là. Une fois que j'ai dit ça, vous ne pouvez pas, M. Balalo, me prêter des intentions, des propos qui ne sont pas les miens. Et vous allez réécouter le débat et vous verrez que je n'ai rien dit. Vous m'avez prêté des intentions au sujet des FACA. Je n'ai pas dit que les FACA ne sont pas prêtes. J'ai dit l'état d'esprit d'une partie. J'ai vu, j'ai constaté, j'ai touché du doigt. Peut-être vous étiez au bureau, j'étais sur le terrain. Contrairement à vous, peut-être vous étiez au bureau, j'étais sur le terrain. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher de dire, d'analyser les faits. Ce que j'ai vu, j'ai touché du doigt. Donc, si vous voulez jouer sur le sentiment des FACA en disant que j'ai dit ceci, je n'ai pas dit. J'ai vu une partie des FACA se comporter au point que je me suis posé la question sur l'état d'esprit de cette partie des FACA-là. C'est mon droit le plus absolu de m'interroger là-dessus. Et donc, vous n'avez pas à me dire que, à me prêter des propos qui ne sont pas miens. Oui, Armando, lorsque vous évoquez les difficultés ou les événements qui ont conduit, peut-être pour vous, la population, effectivement, à se mettre dans ce dispositif-là, ça se comprend, ça s'explique. Il faut le dire, nous avons connu beaucoup de situations de violence dans ce pays, notamment de violence armée. Depuis 1996-1995, les mutineries, le coup d'État en 2003, mais le coup d'État a commencé depuis 2001, 2013, qui a été une catastrophe pour les Centrafricains, et plus récemment, la CPC. La population est traumatisée. C'est pour ça que je dis, la population a besoin d'être rassurée en disant des choses qui sont vraies. Et je finis en disant ceci. Je parle à M. Balalou. Il y a une chose sur laquelle vous et moi on est d'accord, c'est que je condamne systématiquement toute tentative de prise de pouvoir par les armes. Et ça, les preuves sont là. Je l'ai toujours dit. Je peux ne pas être d'accord avec vous. Je peux ne pas être d'accord avec le pouvoir en place. Mais jamais je vais cautionner une prise de pouvoir par les armes. La preuve, vous n'avez pas cité les noms, mais je citerai les noms. Quand on allait chercher les armes chez Alexandre Ferdinand Guédé, je pense que je suis pratiquement le seul à prendre la parole pour dire « ce n'est pas normal ». Ce projet de destitution, je le condamne. Et donc, je suis de ceux qui pensent que toute tentative de prise de pouvoir par les armes doit être condamnée, doit être sanctionnée. Maintenant, ça ne doit pas suffire. De votre côté, vous qui avez la manette, faites de telle sorte que ceux qui ont l'envie de recourir à la violence armée, qui n'est pas légitime, qui n'est pas légale et dont je condamne, ne soient pas tentés. Et comment y arriver? C'est de créer un cadre pour qu'il y ait consensus autour de la gestion de la chose publique. Je ne justifie pas le recours aux violences armées, mais j'essaie simplement de dégager des pistes pour qu'on arrive un jour à vivre sans les bruits de bottes, sans les crépitements d'armes, sans le phénomène groupe armé dans ce pays. On en a besoin. Sinon, tout ce que vous évoquez en termes de développement, en termes de consolidation de la paix, on n'aboutira pas. On n'aboutira pas parce que même pour les investisseurs, et je suis rassuré, vous êtes financiers, même pour les investisseurs, ça ne les rassure pas. Même cette rumeur-là, vous imaginez quelqu'un qui veut venir investir dans ce pays et qu'il est à l'aéroport, on lui dit, il y a une rumeur à Bangui, qui laisse entendre que les gens sont en train de courir parce que le groupe armé sera à la porte de Bangui. Même si c'est une fausse rumeur, même si c'est une fausse information, mais ça décourage, ça démotive l'investisseur.
Monsieur Balalou, vous rebondissez avant Merci. Que je vous pose une autre question.
Je vous remercie. Cette question dont on a parlé de rumeurs, de tentatives de déstabilisation, autant je partage l'analyse faite par Monsieur Beninga. Mais je tiens à vous dire que nous devrions travailler, et vous l'avez dit, vous parlez de cadre, le cadre existe, ce cadre existe, nous travaillons de ce cadre-là, puisque nous avons tout un processus de sécurisation de ce pays, nous avons des forces de l'ordre qui sont formées, déployées au fur et à mesure, même si c'est encore insuffisant, nous avons tout un dispositif pour permettre de rassurer la population et favoriser la quiétude. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. C'est dans la tête du Centrafricain. Même si on ne pense pas de la même manière, ce qui est normal, on ne peut pas penser de la même manière tout le monde. C'est l'approche. Moi, je suis aujourd'hui là, demain je ne serai pas là. Quelqu'un d'autre sera là. Mais contribuons, faisons de telle sorte que si je suis là, mais on va apporter notre contribution, mais après d'autres viendront, on va toujours être à côté pour travailler pour notre pays. Malheureusement, ce concept-là n'existe pas dans ce pays. Et c'est ça qui crée des problèmes, et c'est ça qui alimente tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire cette conception de prendre le pouvoir par la force, cette conception de créer la division, cette conception de faire de telle sorte qu'il y ait une méfiance généralisée entre les Centrafricains, monter les uns contre les autres. Et c'est ça mon cheval de bataille. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons travailler ensemble, quelles que soient nos divergences. Je vous l'ai dit et répété. Et ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une approche d'un citoyen responsable. Nous ne voulons pas accepter, là où nous sommes, dans un pays meurtri, vous l'avez, j'ai pas voulu revenir, c'est des débats que nous faisons passer tout le temps, Nous vivons dans la chair, tout ce que nous avons vécu dans ce pays, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est pour cette raison que je tiens à vous le dire ici. Ces fausses rumeurs ne sont pas anodines. C'est-à-dire derrière ça, et je vous le dis encore, vous avez des gens qui pensent que ça c'est leur possibilité qu'ils peuvent trouver pour, n'est-ce pas, trouver leur compte. Mais je répète, je vous le dis aujourd'hui, et c'est la position du gouvernement. Nous travaillons pour créer les meilleures conditions. Et nous voulons, ensemble, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, travaillons ensemble pour ce pays.
Mais moi,
je voudrais dire très rapidement
deux choses. Rapidement, je vous en prie.
Non, mais si vous chronométrez bien, il parle plus que moi.
Non, je chronométrerai.
Si vous chronométrez bien, il parle plus que moi. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, M. Balalou, il y a un fossé entre le dire et le faire. Quand vous parlez, vous donnez l'impression d'avoir de très bonnes intentions. Mais quand on vous voit faire, on se pose la question. C'est pour ça que je dis qu'il y a un écart entre le dire et le faire.
Allez-y.
Vous avez... Mais quand je dis, je ne personnalise pas, je parle du gouvernement.
Je sais.
Alors, vous donnez l'impression que le mal ne vient que de l'opposition. Pourtant, la responsabilité, elle est partagée. Observons bien ce qui se passe. Vous et moi, vous et moi sommes membres de certaines plateformes. WhatsApp. Il y a des jeunes affiliés au pouvoir qui distillent des discours de haine. De même que des jeunes affiliés à l'opposition qui distillent les discours de haine. Vous, qu'avez-vous fait pour interpeller ces jeunes-là? En connaissant leur identité, en travaillant avec eux, en les mobilisant. Et ça, je le dis également à l'opposition. Si j'ai un homme politique de l'opposition en face, je lui dirai la même chose. Voilà par exemple un exemple aussi simple. C'est une source de problème. Vous ne faites rien. Et puis, lorsque vous dites que les rumeurs sont distillées, arrêtons un peu de pointer du doigt les autres. Qui ne vous dit pas que la menace aussi peut venir de votre camp? Qui ne vous dit pas que la rumeur aussi peut venir de votre camp? Ce qui s'était passé la fois dernière, ce n'est pas de l'opposition. Je ne me fais pas l'avocat de l'opposition, je suis désolé de le dire. Mais cette dame, quand elle est sortie, elle n'a pas parlé à une force politique de l'opposition. Encore moins à un leader de la société civile. Elle a parlé aux forces de défense et de sécurité. Et c'est le comportement des forces de défense et de sécurité sur place
Lorsque vous évoquez l'état d'esprit de certains forces de défense et de sécurité que vous avez vu sur le terrain, voyons maintenant l'attitude aussi des gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays. On a comme l'impression que chaque régime ne fait pas assez de confiance à l'armée nationale, en commençant par le président Patassé qui avait fait recours aux Libyens pour protéger son régime. Nous avons le même cas avec le président Bouzizé qui faisait aussi confiance aux Tchadiens, et actuellement le président Touadéra avec les Rwandais et les Russes qui sont dans sa sphère de sécurité. Peut-on dire que c'est un manque de confiance aussi vis-à-vis de l'armée dans certaines situations?
Écoutez, ce que vous dites, je vais vous répondre tout de suite. Nous sommes un pays souverain. On a le droit, dans le cadre bilatéral, d'avoir des accords de coopération militaire. On l'avait avec la France, on l'a avec les pays amis, le Cameroun, on l'a avec le Gabon. Nous l'avons avec le Rwanda. Vous allez dénier à un pouvoir, un État, d'avoir des accords?
Non, c'est pas ça.
Attendez, on ne pose pas de questions. Non,
vous êtes en train d'esquiver la question tout à l'heure.
Non, je n'esquive pas.
On ne parle pas de l'accord. On parle de l'état d'esprit. Et je vous ai rappelé ce qui s'est passé avec le président Patassé jusqu'à présent.
Je ne vous permets pas ça.
On vous pose des questions qui émanent de la population.
J'ai le droit de penser de ce que vous dites, ok? Vous parlez, vous avez cité, le contexte n'est pas le même. Vous avez cité un certain nombre de régimes qui sont succédés. Et vous connaissez bien
la situation.
Non, s'il vous plaît. Vous connaissez bien la situation de notre pays, la particularité. Vous savez quand le président Touadéra est arrivé au pouvoir. Vous le savez, si vous voulez que je vais vous le rappeler encore. N'est-ce pas? Il a pris le pouvoir. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Et à l'époque, plus de 80% du territoire était occupé par qui? Et lorsque le président de la République a sollicité l'appui dans le cadre de l'accord de défense avec le pays ami, la France, vous le savez, le président a sollicité l'appui. Vous savez la suite, n'est-ce pas? Et si la France voulait nous aider, pouvait nous aider, la France nous a demandé d'aller vers la Russie. Et nous avons pu avoir des accords de coopération avec la Russie. Où est le problème? Avec le Rwanda, on a eu des accords de coopération, c'est normal. Vous ne pouvez pas dire ce que vous venez de dire.
Vous vous focalisez sur une idée, une partie de la question. Je vous ai rappelé la situation avec les Libyens, la situation avec les Tchadiens à l'époque de M. François Bozizé. Vous vous focalisez sur ça pour quelle raison?
Permettez-moi, parce que c'est vous. Vous dites que les régimes successifs, n'est-ce pas, font plus appui, n'est-ce pas, à des forces étrangères.
C'est la question que posez.
Voilà. Mais je vous dis, le cas est différent de la RCA. Je suis clair. Le cas est différent.
Vous l'avez déjà dit.
Et là
vous
encore, déjà permettez-moi, dit. Je poursuis.
On gagne du temps, je vous en prie. Oui, quelques secondes.
Laissez-moi terminer. Le cas de notre pays est particulier parce que nous sommes dans une géopolitique pour laquelle le président de la République a une vision. Une vision qui est partagée par la population. Une vision, pour lui, c'est de prendre nos responsabilités, prendre nos destins en main. Cette vision politique, c'est vrai, crée des inimitiés au niveau de la coopération, n'est-ce pas, internationale. Et je vous dis encore, je vous répète, la présence des troupes étrangères chez nous ici, c'est dans le cadre de la coopération que nous avons avec les États. Et je ne parle pas des autres régimes.
Voilà.
Je parle du régime, n'est-ce
mais,
pas
mais nous, on regarde dans l'ensemble, on fait un peu de rétrospection pour regarder ce qui s'est passé, voir le présent et puis projeter le futur. Je vous donne la parole sur la même question tout à l'heure, M. Pokesan Beninga. Vous avez aussi 2 minutes 30 secondes comme M. Balalou, comme ça on évolue.
M. Balalou, ne soyez pas dans le déni. Il y a un fait. C'est lequel? C'est que le régime en place a eu recours aux forces étrangères. Ça, c'est un fait. Ne soyons pas dans le déni. Maintenant, permettez. Alors, il y a un accord, comme vous l'avez dit, avec le Rwanda. Vous rappelez à justice que c'est dans le cadre de cet accord, mais c'est une force étrangère. Il y a un accord avec la Russie. Nous avons le groupe russe Wagner. C'est une force étrangère. Il faut l'avouer, ne soyons pas dans le déni. Maintenant, pour moi, le fait de mobiliser le Rwanda, la Russie, la Chine, la France, les États-Unis ne gênent pas pour un État qui est souverain. Parce qu'il y a un cadre juridique qui régit le rapport entre les États.
Et où est le problème?
Patientez. Maintenant, ce qui me gêne, et c'est là où il y a une divergence entre vous et moi, vous dites, le chef de l'État a une vision, mais aidez le chef d'État à matérialiser cette vision.
C'est
je vais vous dire pourquoi.
Faisons.
C'est ce que je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Je le dis simplement parce que on mobilise dans le cadre d'un accord bilatéral, multilatéral, que sais-je, les forces étrangères, généralement pour résoudre un problème. Et lorsqu'on réussit à résoudre ce problème-là, passez-moi l'expression, elle n'est pas appropriée, on s'en débarrasse. Dans le cas qui est le nôtre, c'est qu'on a surestimé ces forces étrangères, j'ai envie de dire, aux dépens des forces armées centrafricaines. Je vais vous donner un exemple. Si je mens, dites-moi que je mens. Regardons le dispositif de sécurité de nos autorités, en commençant par le président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée. Quand le chef de l'État est généralement dans un milieu, vous arrivez à l'entrée du périmètre défini du point de vue sécuritaire, vous avez les forces armées centrafricaines. Mais plus vous progressez là où se trouve le chef de l'État, vous comptez les forces armées centrafricaines. Si je mens, dites-moi que je mens. Vous allez voir l'avant, j'ai envie de dire la dernière barrière de sécurité, vous verrez les forces russes, mais à l'intérieur, vous avez les forces du contingent rwandais. Ça choque. L'image là, ça choque. Moi, j'aurais aimé que le président de la République, qui est mon président, il faut l'assumer, le président Touadéra, qui est le président de la République, que sa sécurité soit assurée par les FACA. Voyez, à l'occasion des défilés, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Tchad, vous voyez le dispositif sécuritaire. Je veux voir ce même dispositif sécuritaire par les forces armées centrafricaines. C'est extrêmement important. Ça fait notre fierté. J'ai donné une information.
Mais est-ce que c'est la politisation de l'armée qui fait que tout cela...
Je vais finir par là.
Oui.
J'ai donné une information sur les ondes de Radio Ndekeluka. Le Premier ministre, de son retour d'une mission à New York, m'a tapé dessus de façon indirecte, il ne m'a pas cité, au sujet des sommes qui sont déboursées pour entretenir ces forces étrangères qui sont venues dans le cadre de la coopération. Mais je suis sûr que dans votre fort intérieur, vous le savez très bien que moi, que ces sommes-là, on peut les mobiliser pour renforcer le dispositif de nos forces armées centrafricaines. Je ne voudrais pas faire,
quelque
je voudrais
seconde,
pas susciter l'émotion.
Je
Alors, je finis par la question de la politisation de l'armée. J'ai envie de dire, ma foi, qu'est-ce qui n'est plus politisé dans ce pays? Et c'est ce qui est regrettable. Je finis par un geste, je ne veux pas indexer quelqu'un. Et vous le savez très bien.
Lisez certains courriers qui émanent de nos départements ministériels. C'est le résultat de la politisation. Certains ministres encore veillent sur les documents qui sortent. Je ne vais pas vous citer pour ne pas vous flatter. Ce n'est pas mon rôle. Mais quand vous lisez les documents qui sortent des ministères parfois, vous vous posez la question comme s'il n'y a pas de cadre. C'est simplement parce qu'on a politisé. Parfois, on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il vaut.
On n'a pas assez de temps. Avant de vous donner la parole, je vous donnerai la parole, vous allez rebondir. Mais beaucoup de réactions que nous avons reçues via WhatsApp parlent d'un manque de confiance de la population à plusieurs niveaux. D'abord, la relation armée-population reste à soigner. Avant de vous donner la parole, on prend quelques réactions rapidement pour M. Balalou. Comme ça, vous allez écouter ces témoignages.
Oui, bonjour à tous les auditeurs de la radio Ndekeluka. Moi, c'est Yann. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur un point. C'est juste le comportement de nos militaires, de nos FAKA, qui me surprend dans tout cela. Ce n'est pas la population. Alors, l'alerte qui a été donnée, je pense qu'elle doit être prise au sérieux. Du coup, ce comportement qu'ont affiché les FAKA me laisse perplexe parce que ils doivent vraiment avoir une certaine déontologie professionnelle. J'ai comme impression que c'est eux qui font beaucoup plus peur à la population. Lorsque j'étais dans mon coin et que je les ai vus passer, et moi-même j'ai peur parce qu'ils étaient lourdement armés, ne peuvent pas agir dans le secret, dans la discrétion. Ils étaient même dans des véhicules personnels, etc. Non, je pense que leur hiérarchie doit vraiment essayer de tout faire pour pouvoir recadrer les choses. Quand il y a des alertes, etc., ils doivent avoir quand même le bon sens. Ils doivent avoir quand même la maîtrise de soi et essayer de tout faire dans la discrétion. Ils sont plus paniqués que nous, la population, et nous font beaucoup plus encore paniquer. Et là, je pense que c'est une question de professionnalisme qui manque à nos FAKA. Et là, il faut mettre l'accent sur leur rôle et leur responsabilité et à tout faire dans la discrétion. Je vous remercie.
Bonsoir Armando, bonsoir. Moi, je m'appelle Marcelin Mutishugo, je suis centrafricain, je travaille en RDC. Donc, ma réaction par rapport aux débandades de la population, en réalité, c'est une situation qui devient récurrente. Et cette psychose de la population a une origine lointaine. Je pourrais dire que c'est une espèce de pathologie déjà mentale déjà. Donc, il ne suffit pas seulement à chaque fois de faire lire un communiqué appelant la population au calme. La sécurité en RCA limite seulement à Bangui. Dans un rayon, je dirais, 25 km, elle est vraiment pratiquement nul. Donc tout simplement parce que les bonnes routes, y a pas de bonnes routes, et les bonnes routes surtout sont les facteurs de la sécurité. L'urbanisation aussi du pays fait partie de la sécurité. Si tous ces éléments sont là, cela permettra aussi aux forces de défense d'intervenir le plus rapidement possible. Donc je pense que vraiment c'est tout ça que l'État doit toujours chercher à voir, au lieu de toujours, quand il y a une débandade, on nous file des communiqués. Donc je pense à mon humble avis, c'est ça. Donc vraiment, c'est essayer de voir tous ces contours. Parce que la sécurité, c'est la route, c'est l'électricité, c'est tout ça. C'est tout ça qui permettra à la population, dès qu'il voit quelque chose, il peut alerter et puis les forces de défense peuvent venir. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport à cette situation qui s'est passée à Bangui, qui était vraiment déplorable, quoi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. C'était là les réactions orales de Centrafricains sur ce sujet. Et selon Stéphane qui nous a écrit, depuis Alindao, le gouvernement doit tirer aussi les leçons de passé. Il a retracé par exemple la situation de 2013-2020. Et Stéphane de conclure qu'au lieu de parler d'une fausse alerte à chaque fois, que les autorités puissent prendre les responsabilités pour éviter le pire à l'avenir. Victor Namsene estime que le peuple est mieux informé que le pouvoir. Dans ce genre de situation, il ne faut pas minimiser les informations. Monsieur Namsene demande au gouvernement de tout faire pour regarder autour de lui et aussi corriger beaucoup d'irrégularités que lui qualifie dans le fonctionnement actuel du pays. Mais les gens ont peur aussi de dire la vérité aux autorités pour éviter le qualificatif d'ennemi de la République. Voilà ce que Namsene nous a envoyé. Bon, ça fait plusieurs réactions. Je vous ai dit qu'on a mis quelques réactions sur WhatsApp. On ne peut pas tout prendre pour ne pas perdre le temps. Nous avons tout pris en compte, toutes vos réactions ici. Monsieur Balalou, vous voulez réagir tout à l'heure sur certains propos.
Je vous remercie. Vous savez, je remercie les compatriotes. S'il y a plusieurs réactions, ça veut dire que les gens aiment leur pays, ce qui est tout à fait normal. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, monsieur Armando. Vous faites comme si ce régime ne fait rien, comme si ce gouvernement ne fait rien.
Est-ce moi ou la population?
Je vous pose la question.
C'est moi qui pose la question ici.
Et je me demande si certains compatriotes, je ne sais pas, de mauvaise foi, je n'en sais rien, peuvent se rendre compte des efforts titanesques que le gouvernement déploie pour apporter tant soit peu des solutions à la situation de notre pays. Parlons-en, vous parlez tout à l'heure, mon cher cadet, et aller dans tous les sens, en parlant de la sécurité rapprochée du président, des commentaires et autres. Moi, je ne réponds pas à ça. Mais je vais vous dire une chose. Un chef d'État, c'est un chef d'État. Et il a droit d'assurer sa sécurité. Vous ne savez pas comment fonctionne la sécurité présidentielle. Vous ne savez pas. Il faut éviter de dire des choses telles que vous le dites ici. Je ne vous le permets pas. Deuxièmement, ce que je voulais vous dire, nous avons des FSI en formation, nos FACA, je le reconnais, ce que vous le dites, depuis des années, l'armée a été déstructurée, il y a eu beaucoup de problèmes, il faut le reconnaître. Mais reconstruire une armée, vous le savez, c'est tout un processus, c'est un long processus. Vous avez encore peut-être des gens qui ont des habitudes et autres, mais il y a un effort important, ça je tiens à vous le dire, pour permettre à cette armée de pouvoir répondre efficacement aux besoins de nos populations, à savoir la sécurité. Et quand vous avez parlé tout à l'heure, vous êtes allé dans un autre sens, je ne réponds pas à ça, mais ce que je voulais vous rassurer, qu'il y a un travail important qui se fait au niveau du gouvernement, au niveau de nos forces de défense et sécurité, il y a eu des sanctions, il y a eu des cas d'égarement, je le reconnais, il y a eu des sanctions, il y a eu des radiations d'un certain nombre de militaires qui sont mal comportés. Là, je ne peux pas le nier. Ça a été fait. C'est pour vous dire que le gouvernement a la volonté, sous l'égide du président public, de construire une armée solide. Mais ça prend du temps. Et ce travail-là se fait. Il faut le reconnaître. Ce travail se fait. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour étaler.
Vous l'avez déjà dit.
Du point de vue sécuritaire. Désolé, mais je voudrais vous dire une chose que vous devriez, comprendre.
Oui. Et monsieur Badalou,
non, s'il vous plaît, j'ai pas fini.
Je vous en prie, le temps, on va le couper.
Je vous dis qu'il ne parle plus que moi, vous
répétez. 30 secondes, je vous en prie. Non, non, je gère le chrono.
Je voudrais rassurer mon compatriote, enfin, le rassurer, que nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons pour les Centrafricains. Et nous allons continuer à travailler pour les Centrafricains afin que la paix et la stabilité soient garanties pour que chaque compatriote puisse vaquer à
cette... Les 30 secondes sont terminées. Oui, vous
Monsieur
avez
Balalo, temps de... Je peux accepter que vous dites que vous n'êtes pas d'accord à ce que j'ai dit. Mais ne dites pas que vous ne me permettez pas de le dire parce que je n'ai pas d'autorisation à recevoir de vous pour dire ce que je pense. On est d'accord. Et puis, ne dites pas que si je vais dans tous les sens, je fais une analyse. Je fais une analyse. Vous pouvez ne pas être d'avis avec moi. C'est votre droit le plus absolu. Mais souffrez que je fasse mon analyse. C'est extrêmement important. Je vais vous dire une chose et je finis par là. La chance que j'ai, c'est que je m'autorise parfois à parcourir le pays, à aller à l'intérieur du pays. Et récemment, j'ai eu la chance de faire Kakabandoro, de faire Sibut. J'ai fait boire, j'ai collecté des données dans le cadre de mes recherches à Bambari. Dans le cadre de mes recherches, j'ai collecté des données également à Boussangoua. Le ministère de l'Action humanitaire, de solidarité et de réconciliation s'est appuyé sur les recommandations du Forum national de Bangui, a mis en place, à la demande des Centrafricains, les comités locaux de paix et de réconciliation, en abrégé CLPR. À côté, quand vous arrivez dans ces pays, dans ces villes précitées, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle également, grâce au travail qui ont été faits par certaines organisations non gouvernementales, ce qu'ils appellent les mécanismes locaux de paix, qui travaillent sur les questions de réconciliation. Vous allez voir qu'ils sont très heureux, ces comités locaux de paix et de réconciliation et ces mécanismes locaux de paix, d'accueillir les forces armées centrafricaines et les forces de sécurité. Mais ils se rendent compte qu'il y a un écart entre les forces armées centrafricaines et la population. Et ils le disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont les comportements de nos forces de défense et de sécurité qui expliquent cet écart-là. Je ne le dis pas pour dénigrer nos forces de défense et de sécurité. Je le dis parce que vous êtes aux commandes. C'est pour améliorer les choses. Et donc,
désolé,
je ne vais pas revenir
désolé,
sur le ce que vous avez raconté.
Je
mais
coupe,
au moins, prenez
je
ça
coupe,
et
monsieur,
travaillez
monsieur
avec...
Monsieur Benigia, désolé, c'est la fin de ce débat politique.
Même si vous me maltraitez dans la répartition des temps.
Fois, vous... vous avez aussi plus vous avez de moins 30 secondes. Vous avez eu une minute. Voilà. Je disais tout à l'heure que nous avons consacré ce débat sur la fausse alerte du lundi dernier qui a causé des débandades en Bangui. Nous avons aussi décrypté et analysé les causes et les conséquences de cette pratique. Merci à nos deux invités d'avoir répondu à notre invitation. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence pour un autre numéro. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon week-end et surtout prenez bien soin de vous car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.